Alors, Pierre-Yves, lors d'un discours devant 1000 élus municipaux, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se dit prêt à céder 1% de la TVQ aux villes s'il est réélu. On estime le montant, d'ailleurs, ça pourrait rapporter 1,3 milliard de dollars.
Oui, et c'est un débat intéressant parce qu'effectivement, l'impôt foncier est basé sur la valeur des maisons, sur la valeur et pas sur l'utilisation des ressources. Donc, par exemple, pour à Montréal, un immeuble de 500 000, un duplex moyen, vous allez payer un 6 000 $ de taxes municipales et scolaires. Et on se dit d'un côté de citoyen, ben ça veut dire que, dans le fond, dans un loyer de 600 $ par mois là-dessus ou 700 $, il y a un 250 $ du locataire qui est des taxes municipales seulement. Ça met un gros coup fixe sur les propriétaires et sur les habitants de maisons. Et en réformant la taxation, on se dit, OK, on va aller chercher une portion variable parce que les villes absorbent une portion de la dette. Hein, parce que le fédéral a une dette, réduit les transferts aux provinces pour payer sa dette. Les provinces réduisent leur transfert aux municipalités et les municipalités augmentent les taxes. Donc, tout ça fait en sorte que c'est les citoyens, au bout du compte, qui se retrouvent avec un fardeau de tout ça. Donc, on dit, OK, on va redistribuer de la TPS, de la TVQ. Et je suis allé voir dans le budget, j'aime bien ça, moi j'étais comptable, j'avais fouillé dans le budget, et effectivement, la perception de la TVQ au niveau de 2018-2019, c'est environ là 17 milliards de dollars. Donc effectivement, 1% de ça, c'est un peu plus d'un milliard. Donc oui, ce serait intéressant de faire une distribution. Maintenant, comment on va distribuer? Est-ce que ça va être proportionnel à la grosseur de la ville, à la taxation, au budget, au nombre d'habitants? C'est là la question.
Parce que combien recevrait Montréal? Combien recevrait Québec? Combien recevrait
Saint-Tite? Et une fois que tu mets de la TPS là-dedans, ceux qui ont des événements spéciaux où on redistribue déjà des subventions, comment égaliser ça? C'est pas facile. C'est pas facile à gérer.
La chicane monte encore d'un cran dans ce qui est devenu, on s'en parle régulièrement, on pourrait appeler ça une radio-réalité, David Stee.
Oui, parce que là, Herschel Segal n'a pas dit son dernier mot. Il s'en va mettre un site en ligne, savedt.com, ou un site en anglais où il donne sa vision de l'échange et il veut reprendre le contrôle sur le conseil d'administration avec ses nommés. Lui, il détient 46,4% des titres en circulation et on gère 240 points de vente. Mais chez David Stee, le problème, c'est qu'à un moment donné, peu importe qui va être à la tête de ça, les coûts fixes sont extrêmement élevés. Et on se retrouve avec une société qui vendait beaucoup d'espoir sur la croissance, sur un modèle d'affaires, mais que les clients n'ont pas suivi à la hauteur des attentes et qu'il y a beaucoup de concurrence de commerçants indépendants. Même Starbucks a dit, écoutez, le thé, les Américains n'ont juste pas adopté le thé. Donc, le Teavana, qui était la division thé de Starbucks, a été fermé et on a tout ramené dans les cafés Starbucks. Donc, si tu vas dans un café Starbucks, t'achètes du café, mais il y a une option de prendre un thé, Teavana, mais c'est marginal. Donc, est-ce qu'on peut faire vivre une business de thé avec des employés non qualifiés ou qualifiés minimalement, avec du gros éclairage, vendre ça en vrac? Et prendre un produit unique qu'on peut trouver ailleurs, c'est ça vraiment la question. Parce que quand tu vas voir un barista, le barista il a une machine devant lui de 2000, 6000 ou 10 000 $. Tu peux pas avoir le café équivalent chez toi.
Ben non.
Mais infuser du thé, par exemple, ça prend pas une machine.
Ça prend de l'eau chaude.
Et une bouilloire. Et une bouilloire, prend juste ça.
À la rigueur. Et bien sûr, la poche de thé.
Oui, mais ton café à 4$, ton thé à 4$ infusé, n'a aucun sens au niveau du marketing, de la valeur.
Tout à fait.
Et pour la vitesse de préparation, c'est moins vite qu'un café. Donc, au net, là, on se retrouve que ça fonctionne pas. Écoute, en 2018, on parle de 28,5 millions de pertes, des ventes de 224 millions et la performance en bourse, moins 42% sur un an. Ça va pas bien.
Oui, et on va parler d'une compagnie qui va très bien, Walmart. Une solide performance financière au premier trimestre.
Oui, et on copie les épiceries. On a dit, on va offrir la cueillette. C'est-à-dire, vous allez faire un peu comme chez Provigo, où il y a un nouveau système, un nouveau branding de venir chercher ta commande déjà préparée. On veut faire la même chose chez Walmart. Les achats simples et de vêtements pourront être faits et pris en faisant un stop rapide, un arrêt rapide. Donc, on veut aller se dire, les consommateurs qui veulent économiser la livraison, mais qui veulent pas perdre de temps chez Walmart, on va les aider, on va leur offrir le service. Et chez le consommateur, en planifiant ce genre d'achat-là, on sauve les achats impulsifs qu'on fait lorsqu'on est en place, on sauve le temps d'attente et on sauve les frais de livraison. Et ça permet à Walmart d'aller regagner de la marge, parce que Walmart, on le voit très bien, de 2016 à 2018, on a fait de bons revenus, mais surtout, on se rend compte que oui, même si on augmente les revenus, on baisse les profits. Tu sais, les profits sont passés au niveau avant, après impôt, là, avant impôt, excuse-moi, de 21,6 milliards à 15 milliards en 3 ans ou 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dépenser de plus en plus pour faire une vente. On a besoin de vendre en ligne, donc doubler les systèmes. On a besoin de livrer pour que le client ait un prix compétitif. Et le client, comme il n'est pas un optimisateur de valeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petites commandes. Mais le défi pour Walmart, c'est quoi? Augmenter le volume de commandes du client pour que la livraison, le coût de livraison par client soit amorti et faisant en sorte que le client puisse utiliser davantage Walmart. Donc, on veut rattraper Amazon qui a une croissance fulgurante de 2015 à 2017. C'est assez impressionnant comme modèle, mais Walmart s'en va dans une direction. L'avantage d'Amazon, par contre, on vend des services infonuagiques, ce que Walmart va pas. Walmart, on reste dans le détail, donc on est moins diversifié et on peut moins concurrencer le géant américain.
Mais c'est vraiment l'affrontement de deux géants et c'est une lutte à finir.
Oui, Paul.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Salut. Bon week-end.